RFI.
Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Le Royaume-Uni regarde de plus en plus du côté de la Chine pour préparer l'après-Brexit. Le ministre des Finances, Philippe Hammond, était à Pékin le week-end dernier afin de consolider la relation entre les deux pays.
Et l'ancien Premier ministre David Cameron, celui qui a précipité son pays vers le Brexit, il était du voyage et il est revenu à Londres avec un nouveau boulot. Il va diriger un fonds sino-britannique doté de 1 milliard de dollars. Ce fonds servira à financer des projets labellisés « Nouvelle route de la soie ». Au bord, One Belt, One Road, c'est le vaste plan chinois pour développer des infrastructures d'est en ouest afin de faciliter les échanges pour vendre des produits chinois et pour faire travailler des entreprises chinoises. Alors cette nomination, c'est l'annonce la plus médiatique faite à l'issue de la réunion bilatérale, mais ce n'est pas la seule. Un autre grand serviteur de la couronne a été nommé représentant spécial du Royaume-Uni pour les investissements britanniques liés à cette route de la soie.
Et il s'agit de Douglas Flint, l'ancien PDG de la banque HSBC.
Oui, cette fameuse banque plus que centenaire créée à Hong Kong pour faciliter les transactions des trafiquants d'opium joue toujours un rôle prépondérant dans tous les grands accords passés entre la Chine et la Grande-Bretagne. La centrale nucléaire d'Hinkley-Point, par exemple, qu'EDF va construire au Royaume-Uni avec un partenaire chinois, a été financée par des capitaux chinois transitant par HSBC. Cette banque géante, souvent critiquée pour son rôle opaque dans des systèmes d'évasion fiscale, est la plus grande banque étrangère présente sur le sol chinois. C'est l'un des acteurs clés de l'internationalisation du renminbi.
En fait, la City rêve de devenir la tête de pont de la devise chinoise.
Vous avez tout compris Arnaud, une ambition à la hauteur de ses états de service. En volume, Londres, c'est déjà le premier centre financier des échanges en renminbi. C'est aussi la place financière qui capte la plus grande partie de l'activité du Forex, le marché des 40% des transactions sont réalisées à Londres. La cotation future du renminbi dans la capitale britannique semble donc bien partie. Si la City perd son passeport européen, elle pourrait se refaire une santé en ouvrant ses portes à la finance chinoise. Les bourses de Londres et de Shanghai ont déjà signé en 2015 un accord pour connecter leurs activités. Les investisseurs inscrits à Shanghai pourront bientôt intervenir à Londres et vice-versa. Des études techniques sont en cours pour accélérer cette liaison directe.
Mais Dominique, est-ce que la Chine est vraiment l'avenir du Royaume-Uni post-Brexit?
Alors, il faut savoir que ce rapprochement entre Londres et Pékin a été amorcé avant le référendum. Dès 2015, quand Xi Jinping effectue sa première visite, leur relation entre alors dans un nouvel âge d'or. C'est comme ça qu'ils ont baptisé la renaissance des échanges. Avec le Brexit, Londres compte, c'est vrai, plus que jamais sur ce tout-puissant partenaire. Les investissements chinois au Royaume-Uni n'ont pas été interrompus par le résultat du référendum. Ils ont même doublé par rapport à 2015. De là, imaginer que la Chine supplante rapidement l'Europe ou les États-Unis, c'est aller un peu vite en besogne, même si ces investissements chinois étaient multipliés par 100, eh bien, ils resteraient encore très inférieurs à ceux des alliés historiques de Londres. Et puis, pour le moment, hormis les capitaux, les Chinois n'ont pas grand-chose à mettre dans la corbeille en comparaison des savoir-faire des grandes entreprises occidentales.
Aujourd'hui, l'économie en bref, le patron de Ryanair, déjà contraint d'accepter des syndicats dans sa compagnie, devra aussi répondre aux questions des parlementaires britanniques.
Oui, interpellé par les conditions de travail pratiquées par la compagnie irlandaise, la présidente de la commission sociale et celui de la commission patronale de Westminster ont tous deux écrit à Michael O'Leary hier pour lui demander des explications sur le niveau des salaires ou encore sur l'obligation faite aux employés d'acheter eux-mêmes leur uniforme.
Et puis la France renoue avec les records de fréquentation touristique.
D'après les chiffres fournis par la région Île-de-France, la fréquentation a déjà retrouvé son niveau d'avant les attentats de 2015. Les visiteurs étrangers sont de retour, notamment les Japonais et les Américains.
Merci Dominique Bayard. La bourse à présent notre coup.